Mémoire vive.
Présenté par Christelle Le Polothek.
Et préparé par Rachel Rimard, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Tal Brutmann, historien de la Shoah, et Guillaume Ribaud, photographe, pour le livret Auschwitz après l'ère des témoins, réalisé par l'AFMD Isère, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Ce livret de 110 pages fait suite à 4 autres volumes que vous aviez déjà conçus, Guillaume Ribaud, et qui étaient consacrés au Struthof, Buchenwald, Ravensbrück et Sachsenhausen. Avec cet ouvrage, vous avez voulu rendre compte du complexe Auschwitz-Birkenau dans sa géographie et dans son fonctionnement, à partir d'un certain nombre d'entrées et en plongeant véritablement dans la réalité des lieux, que ce soit à partir de photos d'archives, de photos actuelles, de témoignages écrits ou de dessins. Qu'est-ce qu'il était important pour vous de transmettre avec ce livre? On va peut-être commencer par vous, Guillaume Ribaud.
Ce qui est important, c'est surtout les lieux. Que sont-ils aujourd'hui? Parce qu'en tant que photographe, on se doit de parler des lieux, sans oublier évidemment l'histoire, et ça c'est la partie de réalisée par Tal Brutmann dans le choix des témoignages. Mais l'idée c'était vraiment d'articuler autour des photos contemporaines, des photos d'archives, et parfois en essayant de mettre en exergue les changements ou les similitudes entre ces photos d'alors et celles d'aujourd'hui. Et pour réfléchir aussi sur la mémorialisation d'un tel lieu. Donc voilà, ce qui était important, c'était ça. C'est qu'est-ce qu'Auschwitz aujourd'hui et comment en parler après l'ère des témoins, puisqu'on arrive bientôt à après l'ère des témoins.
C'est effectivement ce que Guillaume vient de dire est important, mais il faut aussi insister sur un autre point, c'est que en ce qui concerne Auschwitz et Birkenau, on a affaire à des lieux dont les images sont très importantes d'un point de vue de modelage des représentations, qu'il s'agisse du portail d'entrée d'Auschwitz, hein, le Arbeitsmarktfrei, que tout le monde connaît, ou le Mirador central de Birkenau, pour ne citer que les deux exemples les plus importants, mais on pourrait les multiplier. Vous avez affaire à des images qui ont joué un rôle fondamental depuis la fin de la guerre. Or, l'une des idées initiales de Guillaume, c'était aussi de mettre en perspective ces images et montrer à quel point elles sont à bien des égards impropres. Et justement, une partie du travail qu'il réalise sur l'ensemble de son travail de photographe, c'est de décrypter ces photos et de les mettre en perspective. Et là, en l'occurrence, de les mettre en perspective en s'appuyant sur des témoignages ou d'autres exemples de représentation, notamment des dessins réalisés par les détenus pendant l'événement ou après l'événement.
C'est ce qu'on voit aussi très bien dans ce livre, c'est la complexité donc de cet univers concentrationnaire qui est donc vraiment au cœur du génocide, mais qui n'a cessé de se transformer finalement pendant les années de la guerre, de s'étendre, de se perfectionner, de s'agréger de nouveaux camps, de nouvelles usines également.
En fait, ce qui est très particulier avec Auschwitz-Birkenau, qu'on pourrait pointer pour l'ensemble des camps de concentration, mais pour Auschwitz, c'est encore plus important, c'est que vous avez affaire à un site qui n'a cessé d'évoluer, de muter, de s'agrandir en permanence. Un détenu qui est arrivé en 1940 à Auschwitz ne voit pas ce que les détenus qui arrivent en 1944 voient, tout simplement parce que Auschwitz en 40, c'est un tout petit camp, qui est pourtant déjà le plus grand de tous les camps du système nazi, mais auxquels vont s'agglomérer des dizaines d'usines, un camp numéro 2 qui va être le plus grand de tous les camps de concentration, Birkenau, et qui va être construit entre la fin 41 jusqu'à la fin de l'année 44 en permanence. Il va y avoir des extensions, etc., etc., etc. Ce qui fait que vous avez un lieu qui est tentaculaire dans l'espace, mais aussi tentaculaire dans la manière dont il s'agence et qui induit énormément de complexité et d'incompréhension. À savoir qu'à partir de la fin 41, au camp de concentration au pluriel, vient s'ajouter un centre de mise à mort. Un centre de mise à mort qui ne va cesser de se développer, d'évoluer, de s'agrandir, et qui va se mêler au système concentrationnaire physiquement. C'est-à-dire que le camp de Birkenau va peu à peu s'agrandir et agglomérer toutes les structures qui ont été construites à proximité, mais qui ne font pas partie du camp. Et qui donnent aujourd'hui l'impression, puisque l'histoire d'Auschwitz-Birkenau s'est arrêtée avec la fin de la guerre, qui donne l'impression que tout est dans tout, et qui rend le lieu extrêmement difficile à décrypter pour le visiteur. Tout simplement parce qu'on a l'impression qu'on a affaire à un complexe d'un seul tenant, alors qu'il a été construit en permanence pendant plus de 4 années.
Mais c'est ce parcours qu'on suit, Guillaume Ribaud, hein, ce parcours qui permet de comprendre non seulement la géographie des lieux, mais son évolution dont parlait Tal Brunemann tout au long de la guerre.
Oui, en fait, c'est ça. Avec Tal, on s'est, avant de faire la première photographie, on a quand même réfléchi à la structure du livret, parce que sur 110 pages, parler d'un tel complexe tentaculaire, c'est effectivement assez difficile. Donc on a fait trois parties dans ce livret. On a décidé de parler de Auschwitz 1 dans un premier temps, avec la zone d'extension qui a été construite autour, et ensuite Auschwitz 2 avec deux parties, la partie du camp de concentration et ensuite la partie du centre de mise à mort, et la dernière partie c'est Auschwitz 3, Monowitz et la Buna. Donc oui, on a essayé de montrer la grande, parce que il faut aussi se mettre dans la place de quelqu'un qui va à Auschwitz. Il n'a peut-être pas le temps parfois de tout voir, et on peut parfois être un peu déboussolé dans un tel lieu. Si on n'y va pas encadré, il faut essayer d'y aller dans ce lieu encadré par un historien, par des guides qui connaissent vraiment les lieux, parce qu'il y a vraiment une complexité. Tal tout à l'heure parlait du portail Apartmarsfrei et du Mirador central, où sont devenues des images iconiques qui en fait aveuglent presque le visiteur, car ce sont il y a 4 ou 5 images que vous pouvez retrouver en permanence. Tapez sur un moteur de recherche Auschwitz-Birkenau et vous aurez les 3 ou 4, 5 images qui ressortiront tout le temps, alors que en allant au fond du camp, quand on va vers les ruines du bunker 2 ou sur à l'emplacement du bunker 1, voilà, ça ce sont des endroits qu'on peut découvrir. C'est ce qu'on a essayé de faire dans ce livret. Ce sont pas des endroits cachés, mais ce sont des endroits qui sont un peu éloignés du parcours traditionnel, et ce livret sert aussi à ça, je pense.
Les bunkers 1 et 2 dont vous parlez, ce sont ceux qui vont être remplacés en 43 par les chambres à gaz.
En fait, les bunkers 1 et 2 sont les deux premières chambres à gaz qui ont été installées dans des fermes à proximité du camp de Birkenau, mais à l'écart paradoxalement, et où commence l'assassinat de masse au printemps 1942 des Juifs qui sont acheminés à Birkenau. Et puis, à partir du printemps 1943, ces deux bunkers, c'est le terme utilisé par les SS, vont succéder des chambres à gaz qui sont couplées avec des crématoires et qui vont fonctionner sans discontinuer jusqu'à la fin de l'année 1944.
Donc ça marque vraiment aussi une évolution dans l'histoire du camp.
Ben justement, c'est la complexité que pointait Guillaume précédemment, c'est que ça fait pas partie à proprement parler du camp. Et c'est là où il y a un vrai problème de compréhension. Et quand Guillaume dit c'est pour amener les gens à aller jusqu'au bunker 1 et 2 qui sont au fond, c'est de fait, quand vous rentrez à Birkenau, vous voyez le camp qui est colossal, qui marque n'importe quelle personne qui arrive par son gigantisme, mais qui en même temps comporte un paradoxe monstrueux. C'est que Birkenau est le plus grand de tous les camps de concentration. Il est prévu à son plus haut pour accueillir 200 000 personnes. Donc c'est gigantesque. Sauf que s'il est gigantesque, c'est parce qu'il y a 200 000 personnes. Or, les bunkers 1 et 2, qui sont des toutes petites fermes, ont englouté les vies de sans doute 200 000 personnes, 200 000 juifs. Et c'est des lieux ridiculement petits, qui sont pas plus grands qu'un appartement. C'est-à-dire, oui, c'est 50 ou 60 mètres carrés. Et l'immense majorité des visiteurs ne peuvent pas comprendre ces lieux parce que d'une part ils sont à l'écart, donc on ne les voit pas. Il faut vraiment s'éloigner du camp à proprement parler pour les voir. Et d'autre part, on ne peut pas comprendre le caractère monstrueux. Les gens sont happés par la monstruosité incarnée par un camp de concentration qui s'étend à perte de vue. Et ces lieux ridiculement petits, on ne comprend pas que ce sont les lieux les plus meurtriers, puisqu'ils sont destinés à l'assassinat. Et justement, ça permet de comprendre que cette expression qui est souvent utilisée de camp d'extermination est absurde. En fait, les structures homicides de Birkenau sont des lieux ridiculement petits où les gens rentrent et ne sortent pas. Et donc, il n'y a pas besoin d'espace, puisqu'on tue en masse et qu'on évacue les corps au fur et à mesure.
Oui, il y a notamment ces photos, Guillaume Ribaud, qui sont extrêmement fortes de bunkers 1 et 2, de ces fermettes, en fait.
Aujourd'hui, il ne reste, pour aller encore plus dans le sens de Tal, c'est qu'aujourd'hui, ces lieux n'existent physiquement quasiment plus. Les ruines du Bunker 1 n'existent plus et il reste quelques petits murets qui marquent et qui symbolisent l'emplacement du Bunker 2 au fond du camp derrière le Zentralsona. Et ça, c'est vraiment très difficile, comme le dit Tal, pour un visiteur de se figurer. Parce que là, on est face à une ruine, face à la disparition, face à l'absence. Et quand on y va chargé d'histoire ou quand on y va chargé d'intelligence, on arrive à se figurer tout ça parce que derrière les bunkers 2, il y avait aussi toute une zone, c'est un grand pré, une grande prairie qui s'étend vraiment jusqu'au bout. Et ce sont les endroits où étaient les fosses, où les corps étaient évacués. Il y a aussi cet endroit qui est absolument, pour moi, extrêmement fort. On ne le voit pas dans le livret, mais il est très 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 fort au fond de Birkenau. C'est une clairière qui est au milieu de rien, où également on évacuait les corps, où il y avait des fosses d'incinération. Donc, en tant que photographe, parfois on est confronté au vide, et ça, c'est parfois difficile à rendre compte, mais c'est une des réalités de ces lieux. Ces lieux sont, aux contemporains, on ne peut pas se suffire de l'image, en fait. Il faut autre chose. C'est pour ça qu'avec Tal, on a vraiment fait très attention aux légendes. Elles sont synthétiques, mais on a essayé vraiment de donner le plus d'éléments pour pouvoir comprendre et appréhender ces images.
Mais en l'occurrence, oui, c'est le fait de composer ces images d'archives avec les photos des ruines que vous avez prises, donc Guillaume Ribaud, et puis les témoignages, on comprend parfaitement, effectivement. Et parfois même, justement, les photos du vide avec le témoignage en dessous sont encore plus fortes.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a essayé de faire, et c'est le travail de Tal a été aussi très très important, parce que le témoignage, c'est finalement, parce que ce que je photographie aujourd'hui, c'est un reste, une ruine. Le témoignage, lui, revient incarné, et à travers les dessins également, et à travers les photos d'archives, parce qu'on vous avez pu le voir dans le livret, il y a beaucoup de photos d'archives qui proviennent la plupart du temps d'albums faits par les SS. Et qui c'est une richesse, et ça aussi c'est, on a vraiment essayé de mettre ça en avant, parce que on voit vraiment beaucoup beaucoup de choses, et on voit les traces du temps avec mon travail à moi. Voilà, c'est le grand écart.
C'est ça, on peut-être la citer, parce que c'est vraiment une iconographie incroyable, avec des dessins les plus emblématiques, comme ceux de David Allaire, qui est un rescapé des camps, et puis des photos d'archives extrêmement rares, comme ces quatre photographies qui ont été prises au moment de la révolte des Sonderkommando, c'est bien ça?
Je pense que Tal en parlera mieux que moi, mais oui, ce sont des photos qui absolument extraordinaire. C'est un patrimoine pour la mémoire et pour l'histoire de l'humanité. C'est quatre images, quatre bouts de pellicule arrachées de l'enfer, si je peux me permettre ce terme. C'est vraiment Métal a beaucoup travaillé sur ces images.
En fait, ces quatre photographies sont prises quelques semaines avant la révolte du Sonderkommando, et ce sont quatre photos clandestines prises par des membres du Sonderkommando qui sont destinées, en fait, à être un témoignage. Certains membres du Sonderkommando vont dessiner comme David Allaire, et on sait qu'Allaire a dessiné à Birkenau, mais ses dessins ont été perdus. D'autres ont écrit pour témoigner, c'est les manuscrits qui ont été enfouis et dont certains ont été retrouvés. Et ce groupe d'hommes, une demi-douzaine sans doute, on n'a pas tous les détails quant à la composition de ce groupe, a décidé de faire des photos pour montrer ce qui se déroulait à l'été 44 dans les chambres à gaz couplées avec des crématoires. Donc vous avez deux photos qui ont été prises, qui sont censées montrer, enfin qui montrent un groupe de femmes en train de se déshabiller, sauf que la première photo, qui est faite dans l'urgence absolue et dans des conditions totalement ahurissantes, ne montre rien, sinon ce caractère d'urgence, parce qu'elle est mal cadrée, on voit des arbres et rien d'autre. Et puis deux autres photos où on voit les corps en train d'être brûlés à ciel ouvert. Et vous avez là, en fait, quelque chose d'extraordinaire, ce que Guillaume vient juste de pointer, mais sur lequel il faut insister, c'est que toutes les photos qu'on dispose d'Auschwitz pendant la guerre ont été faites par des SS. Donc avec un point de vue SS, avec une volonté de montrer la réalité selon les SS, et certaines photos qu'on utilise, notamment celles qui sont tirées de l'album d'Auschwitz qui a été fait en 1944, sont des photos faites par les SS qui sont censées montrer à leur hiérarchie comment se passe, entre guillemets, bien la destruction des Juifs de Hongrie. C'est-à-dire que vous avez affaire à une mise en scène totale à tous les niveaux dans ces photographies-là. Or, avec les quatre photos du Sonderkommando, vous avez affaire à des photos qui n'ont pas été réalisées par des gens qui cherchent à travestir la réalité, mais au contraire à la montrer, ce qu'ils peuvent fixer sur la pellicule, et qui permet d'apporter une nouvelle dimension à la photographie, mais il faut insister sur une chose, c'est que le dessin, les dessins que nous avons choisi de retenir sont aussi une partie de cette réalité. Et vous avez énormément de dessins qui montrent ce que les photographies faites par les SS ne montrent pas. La violence des SS, par exemple, contre les détenus ou contre les juifs qui sont débarqués sur le quai d'arrivée réservé aux juifs, sur les photos faites par les SS, vous ne les verrez pas. En revanche, sur les dessins faits clandestinement par les détenus ou alors après la guerre par des rescapés du camp, c'est figuré. Et c'est une réalité aussi, et c'est beaucoup plus proche en fait de la réalité que une grande partie des photos faites par les SS.
Il y a aussi ces lieux avec sur lesquels j'aimerais revenir avec vous, Tal Brutmann, des lieux qui sont donc plus éloignés géographiquement et qu'on a peut-être plus de mal à se représenter, comme Bonovitz ou la Bouna notamment, ou encore la mine de Jarikovitch.
En fait, c'est à la fois l'illustration de ce qu'est le système concentrationnaire nazi en général, c'est pas propre à Auschwitz, mais ce qui est particulier avec Auschwitz, c'est qu'en fait vous avez un immense projet. Auschwitz, c'est pas juste le nom d'un camp, c'est le nom d'une ville aussi auquel le camp est arrimé, qui est une ville qui devient le porte-étendard de la reconquête coloniale allemande vers l'Est, sans rentrer dans le détail, et autour de laquelle se sont agglomérés des dizaines de projets de construction, et notamment les mines qui sont développées, qui permettent d'attirer l'industrie. Mais au-delà de cette réalité historique, Guillaume, lui, a été photographié sur ces sites-là, à la fois les traces des camps qui ont été installés à côté de ces lieux, et aussi les monuments qui ont éventuellement été construits au sortir de la guerre pour marquer ces lieux. Et ces photographies, il peut en parler lui-même, montrent le peu de traces justement qu'il reste de ces sites.
Oui, c'est vrai que ce sont des lieux qui n'ont pas été vraiment mémorialisés. Quand on va aujourd'hui sur l'emplacement de l'ancien site de Monowitz, Auschwitz III et la Bouna, le lieu existe toujours, c'est toujours une usine. C'est la topographie est toujours la même. On l'a montré dans le livret. J'étais même étonné de retrouver quasiment des cheminées identiques, les tuyaux au même endroit. Quand on compare l'endroit aujourd'hui avec les images, les vues aériennes prises en 1944, on est assez stupéfait par la régularité des lignes qu'on retrouve exactement aujourd'hui, les mêmes tuyaux au même endroit. Enfin, c'est assez c'est vraiment très très troublant. Et le camp de Monowitz où les détenus étaient parqués, aujourd'hui il ne reste que quelques maigres poteaux en béton effrités et puis quelques bunkers anti-aériens posés ça et là. Mais c'est vraiment assez étonnant, c'est un lieu assez étonnant de voir. En voiture on peut y aller, hein, tout le monde peut y aller, c'est une route, on traverse quasiment le site pétrochimique, c'est vraiment assez étonnant.
Donc ça ne fait absolument pas partie de la partie, on va dire, mémorialisée du camp d'Auschwitz.
Non, c'est en fait.
Et pourtant.
En fait, c'est tout le problème, c'est que vous avez affaire à un ensemble gigantesque dont les deux principales structures ont été incluses dans le périmètre du musée, à savoir Auschwitz I, le camp souche où tout démarre, et Birkenau, le plus grand des camps, et en même temps là où se trouve le centre de mise à mort. Mais les bunkers dont on parlait précédemment, par exemple le bunker 1 dont toute trace avait disparu pour des raisons historiques, qui a été rasé par les SS et la plupart des Sonderkommando qui ont été astreints n'ont pas survécu à la guerre, avait disparu des mémoires. Et en fait, quand des historiens ont commencé à s'interroger sur son emplacement, on s'est rendu compte qu'il était positionné à l'extérieur du périmètre protégé par l'UNESCO et par l'État polonais. En fait, vous pouvez pas conserver l'ensemble de ce qui a été à Auschwitz parce que c'est gigantesque. Et ce que Guillaume vient de vous dire à propos de la Bouna, c'est une réalité, c'est une usine qui fonctionne aujourd'hui encore. Qu'est-ce que vous faites de la Bouna? Enfin, d'un strict point de vue concret, quel est l'intérêt éventuellement de la geler et d'en faire un lieu de muséographié? Il n'y en a aucun. Les gens ont déjà beaucoup de mal à visiter l'ensemble de Birkenau. C'est impossible. En une journée, vous pouvez même pas faire le tour de Birkenau. Alors, je vous laisse imaginer ce que c'est que de visiter la Bouna, Monowitz, les mines alentour, les dizaines de commandos qui sont alentour, Raisko, où se trouvaient des femmes françaises comme Charlotte Delbault et que Guillaume a été photographié. C'est gigantesque. Donc, l'idée aussi, et c'est des choix que Guillaume et moi avons fait, c'était de retenir des sites emblématiques qui permettent de comprendre l'histoire. Je pense que l'immense majorité des gens qui vont à Auschwitz ne savent pas qu'il existait des mines où se trouvaient des prisonniers qui étaient mineurs de fond.
Dont il y a des témoignages.
Il y a des témoignages.
À chaque fois dans le livre.
Exactement. Et ces témoignages ont été publiés à partir de la fin de la guerre. Donc de prendre par exemple des mines, de prendre Raisko, dont les structures du camp continuent. C'était des serres créées par les SS pour des recherches scientifiques. Les serres existent toujours, etc., etc. Donc il s'agissait aussi de montrer aux gens qui veulent visiter les lieux, plutôt que le lieu, les lieux, qu'ils peuvent aussi prolonger la visite s'ils veulent passer plus de temps. Mais il faut pas non plus se leurrer. Au bout d'une journée à Auschwitz, vous avez vu beaucoup de choses et vous n'avez pas forcément envie d'y rester. Et ça peut se comprendre.
Non, mais effectivement, mais ça éclaire justement sur la lecture, par exemple, de Primo Levi, des choses comme ça. D'un seul coup, on se retrouve dans un univers géographique, en tout cas dans une topographie qu'on comprend mieux.
Mais justement, l'exemple de Primo Levi, il est parfait pour l'immense majorité des gens. Primo Levi, c'est un rescapé d'Auschwitz, qui est la réalité, mais il le place à Auschwitz 1 ou à Birkenau. Or, Primo Levi n'a jamais vu le Arbeitmarktfrei, photo emblématique dont parlait Guillaume, ou le Mirador Central, autre image emblématique que tout le monde connaît. Il descend du train sur le quai aux Juifs qui se trouve à l'extérieur du camp et qui est dans le livret. Et puis, il est envoyé à Monowitz, qui est à une demi-douzaine de kilomètres de Birkenau et d'Auschwitz. Et il passe toute sa détention à Monowitz et à la Labuna. Autrement dit, il n'a jamais vu ni Auschwitz 1, ni Birkenau. Et l'exemple de Primo Levi est parfait. L'immense majorité des Juifs, et je parle que des Juifs, qui sont arrivés à Birkenau, n'ont jamais vu l'Arbeitmarktfrei, qui se trouve à 3 kilomètres de la Judenrampe. Et même une très grande partie d'entre eux ne sont même jamais passés sous le Mirador Central, puisque jusqu'au printemps 44, les trains arrivent à l'extérieur de ce Mirador Central. Mais parce que vous avez des images faites par les SS au printemps 44, avec des trains qui sont sous le Mirador Central, entre deux portions du camp, tout le monde pense que les Juifs arrivent là. Alors que jusqu'au printemps 44, c'est absolument pas le cas, et ça vous montre aussi la force des photos. Les photos faites par les SS au printemps 44 dans Birkenau avec les trains qui arrivent ont figé l'histoire de ce lieu sur sa dernière période en fait. Et Guillaume a essayé de montrer avec ses photos les différentes étapes historiques du site.
Oui, ce qui revient aussi souvent dans votre travail, Guillaume Ribaud, c'est ce qui reste une fois que les faits sont passés, que les traces ont été effacées, soit par les nazis eux-mêmes, soit par l'effet du temps, une fois aussi que les derniers témoins auront disparu. C'est ça que montrent vos photos.
En tant que photographe, j'ai déjà fait deux livres sur Auschwitz avec Tal, justement, donc dans un spécifiquement sur Auschwitz qui s'appelait Chaque printemps les arbres fleurissent à Auschwitz, un autre qui s'appelait Quand en France, où j'avais suivi un déporté juif de France, toute mon approche vient j'ai une approche frontale, c'est-à-dire je me défends presque toute esthétisation, même si après on peut discuter de l'esthétisme intrinsèque d'une photographie, mais j'essaie toujours de me mettre face avec une focale quasiment toujours la même, sans effet de plongée, de contre-plongée, de flou, etc. Et j'essaie de me mettre en face parce que il me semble que la photographie dans ce type de lieu, c'est pas un concours de photos en fait, c'est y a une approche historique par la photographie, parce que je suis photographe et j'essaie toujours de voir ce qu'a été ce lieu et ce que moi je vois aujourd'hui, sans essayer de travestir tout ça par des petits artifices, parce qu'ils sont nombreux, ils sont aisés quand on est professionnel, mais je m'en défends vraiment, j'ai vraiment essayé tout au long de ce livret de montrer ce qui était devenu ce lieu. Vous savez, Tal disait, parlait de la force des photos d'époque et qui fixe une mémoire qui était orientée par les nazis à l'époque. Mais je prenais cette photo du Mirador Central faite par les soviétiques après la libération. Cette photo, tout le monde la voit comme si on rentrait dans le camp. Alors cette photo a été faite de l'intérieur. Vous voyez l'interprétation qu'on peut avoir d'une image, parce que c'est la puissance des images, c'est la puissance de cette histoire. Cette photo, c'est pour ça qu'on l'a mise en double page avec une image contemporaine. Et là, on peut constater que les lieux n'ont pas bougé du tout.
En quelques mots, peut-être pour finir, à qui vous voulez vous adresser avec ce livret, Tal Brutman?
En fait, ce livret, il a pour objectif avant tout de permettre soit aux gens qui veulent aller visiter tout simplement d'eux-mêmes le site, soit pour des enseignants qui ont des projets pédagogiques autour d'Auschwitz et qui veulent se rendre avec leur classe à Auschwitz. C'est vraiment un instrument pour la visite et basé à la fois sur des images photographiques ou dessinées et des témoignages. Vraiment, c'est une façon d'avoir un instrument qui vous permet de vous orienter dans les lieux et d'essayer d'appréhender au minimum l'histoire des lieux.
Je vous remercie tous les deux, Tal Brutman et Guillaume Ribaud. Donc le livret Auschwitz après l'ère des témoins, réalisé par la FMD Isère, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, est disponible sur le site internet de la FMD. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.